géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Qui aurait pu prédire qu'en 2025, le vieil adage « si tu veux la paix, prépare la guerre » deviendrait d'une actualité brûlante. Il n'aura fallu que quelques semaines à Donald Trump pour provoquer un basculement de l'ordre mondial. Guerre commerciale tous azimuts, fin annoncée du parapluie américain qui protégeait l'Europe depuis 1945, humiliation sidérante de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale de la Maison Blanche et alignement de Trump sur le discours du Kremlin, un séisme pour les Européens qui prennent brutalement conscience de leur vulnérabilité face à la menace russe. Depuis, les 27 travaillent à la mise sur pied d'une Europe de la défense et planchent sur l'envoi de forces en Ukraine pour garantir la paix et la sécurité, tandis que les pourparlers de Donald Trump avec Kiev et Moscou pour obtenir un cessez-le-feu s'éternisent, Vladimir Poutine préférant jouer la montre. La Russie représente-t-elle vraiment une menace existentielle pour les pays européens? Les États-Unis sont-ils désormais nos adversaires? L'OTAN est-elle condamnée à disparaître? Comment répondre à la volonté d'hégémonie américaine proclamée par Donald Trump? Quelle place pour la diplomatie quand la loi du plus fort de l'Ukraine à Gaza l'emporte sur le droit international et le respect des droits humains? On en débat avec nos invités. Christine Dugoin-Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste en géopolitique, spécialiste de la Russie. Vous avez publié « Géopolitique de l'ingérence russe, la stratégie du chaos » chez PUF. Pierre Servant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire, spécialiste des questions de défense et de géopolitique. Vous avez publié fin 2022 « Le monde de demain, comprendre les conséquences planétaires de l'onde de choc ukrainienne » paru chez Robert Laffont. Et Bertrand Badi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des relations internationales, professeur émérite à Sciences Po Paris et enseignant-chercheur associé au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale. Votre dernier livre, « L'art de la paix » est paru en 2022. Chez Flammarion. Christine Dugoin-Clément, ma première question est pour vous. Donald Trump se faisait fort de ramener la paix en Ukraine en 24 heures. On en est loin. On se demandait si pour gagner son pari, il oserait tordre le bras de Vladimir Poutine. Et en fait, c'est Volodymyr Zelensky qu'il menace, qu'il tente de forcer à accepter ses desiderata. Dernière de ses trouvailles, entre guillemets, les États-Unis prendraient possession des centrales nucléaires et électriques ukrainiennes pour mieux les protéger. Vous pensez que Vladimir Poutine s'attendait à ce que son homologue américain aille autant dans le sens des intérêts russes ?
Alors, c'est extrêmement probable. Si on prend différents éléments et on peut remonter à la première mandature de Donald Trump, il n'a jamais eu de mot qui soit accusateur ou ne serait-ce que désagréable à l'encontre du président russe. Il a, depuis le début de sa deuxième mandature, pris des positions qui était particulièrement favorable à la Russie, sans parler des narratifs qui ont pu être entendus et qui correspondaient très exactement à ceux qui étaient poussés par le Kremlin. Et puis, on sait qu'il y a une cohérence idéologique dans l'approche des présidents Trump et Poutine, si ce n'est potentiellement des liens de longue date, ne serait-ce que économiques. Je vous renverrai notamment aux travaux de Régis Janté sur ce sujet-là. Quand on est sur un État, et je clôturerai avec cela, hein, qui abaisse toutes ses défenses et ses attaques cyber vis-à-vis de la Russie, alors que la Russie, au même titre que la Chine, était considérée comme des acteurs et des adversaires systémiques dans le domaine, on a un signal qui est assez fort.
Pierre Servant, est-ce que le probable désengagement américain de l'Europe, qui a tellement choqué l'Allemagne notamment, peut s'avérer finalement salutaire pour l'Union européenne ?
Oui, je pense que ça peut être salutaire. Pour utiliser une image un peu vulgaire, je pense que les Européens ont reçu un énorme coup de pied dans les fesses depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. C'est un véritable séisme. On voit les évolutions en Allemagne, notamment, qui montrent que l'Allemagne a bien compris ce qui se passait. J'ai utilisé dans mes propos parfois d'autres comparaisons. Un peu, on parlait des lapins européens qui étaient pris dans les phares américains. Là, les lapins, ils sont passés sous la voiture américaine, donc ils sont un peu sur le bord du fossé, complètement écrabouillés. Et donc, effectivement, c'est un électrochoc et on voit bien qu'il y a une volonté volonté de se réorganiser, de faire face à ce monde nouveau, avec cette alliance quand même stupéfiante. J'entendais l'analyse de Christine Dumont-Clément qui est tout à fait pertinente hein, sur le fait qu'il y a vraiment une ancienneté dans la proximité psychologique, idéologique, mentale entre Donald Trump, sa vision du monde et celle de Poutine. Néanmoins, moi j'ai été quand même surpris de voir à quel point aussi vite il faisait des concessions majeures à Poutine, il allait plus loin que Poutine en traitant le président Zelensky de dictateur, c'est quand même énorme. Et puis dernier point, je termine par cela, rappelez-vous lors de cette la séquence absolument hallucinante du 28 février d'humiliation du président Zelensky et les propos qu'il a tenus par la suite. Il a clairement dit qu'en quelque sorte, Poutine et lui, c'était la même chose, qu'ils étaient tous les deux des personnages qui avaient été outrageusement humiliés, poursuivis, que Poutine avait fait l'objet d'une chasse aux sorcières. Donc je dois dire, j'ai quand même été surpris du degré de défense du système poutinien, du système criminel poutinien, par le personnage Donald Trump.
Les liens entre Donald Trump et la Russie remontent aux années 80. Est-ce que le président américain pourrait être manipulé par Moscou, comme le disent certains, parce que les Russes détiendraient de quoi le compromettre? Vous croyez à cette thèse, Christine Dugoin-Clément?
Tout dépend jusqu'où vous mettez le curseur. Ce qui peut être avéré, c'est qu'il y a eu un travail opéré sur Donald Trump depuis plusieurs années, y compris par les services de renseignement russes. On a des liens effectivement économiques, hein, notamment quand on regarde les traces d'achat de certains appartements dans la Trump Tower, etc. Après, la question c'est, est-ce qu'il y aurait des dossiers qui seraient suffisants pour tordre le bras à un président? On est quand même avec quelqu'un qui est passé après à travers de nombreux chefs d'accusation. Est-ce qu'on aurait quelque chose qui serait suffisant ou pas. L'autre approche est déjà probablement un alignement à minima idéologique, une forme d'aspiration, si ce n'est d'admiration. Je ne mettrais pas ça sur le volet affectif, mais bien plus sur quelque chose de pragmatique, c'est-à-dire un pouvoir fort qui peut gérer son État, qui peut gérer son économie, etc. Donc là, on a aussi quelque chose qui va se ressentir. À partir de là, on a aussi un président Trump qui est éminemment transactionnel dans ses approches, qui a différents pilotes, si vous voulez. Certains vont être purement économiques, d'autres vont être relativement égotiques, avec le besoin de pouvoir prendre une position. Si vous mettez tout cela en rapport, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir quelque part un recrutement au sens classique du terme ou une pression du type « faisons ressortir des dossiers sulfureux » pour arriver à avoir des actions qui puissent être très fortes. Après, c'est où est-ce que vous allez mettre le curseur? Et ça, je n'ai pas les clés de cette équation.
Bertrand Badi, vous avez déclaré que Trump était le Poutine américain. Qu'ont-ils en commun, selon vous?
Énormément de choses, en réalité. Alors, il y a d'abord une connivence conjoncturelle. Trump, c'est « Make America Great Again ». Faut pas oublier que Poutine, depuis 25 ans, c'est « Make Russia Great Again ». Et la meilleure façon d'arriver le plus vite aux objectifs de l'un et de l'autre, c'est de reconstituer le décor de la guerre froide, alors que effectivement la bipolarité est dépassée depuis un certain temps, ce qui déjà révèle un hiatus. Mais la communauté de stratégie est là. Mais au-delà de la communauté de stratégie, et mes camarades l'ont très bien déjà mis en évidence, il y a des similitudes dans l'analyse et dans la vision du monde, et c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est pour les États-Unis l'ordre qui repasse devant les valeurs. Après la chute de l'Union soviétique, la politique étrangère américaine a été animée par le principe néoconservateur du regime change, où la puissance se mettait au service de valeurs, éventuellement du droit, de façon souvent tordue et contestable, mais de façon réelle. Aujourd'hui, et là, Trump est très proche de Poutine. Ce qui compte, c'est l'ordre, c'est la puissance nue, c'est-à-dire débarrasser des oripeaux du droit et des valeurs, avec cette théorie qui vous dira quelque chose parce qu'elle rappelle ce qu'était le néolibéralisme en son temps, que l'ordre a des vertus ruisselantes, c'est-à-dire vous allez être dominé, mais c'est bon pour vous parce que vous allez vous aussi profiter de cet ordre que nous incarnons. Et là, vous retrouvez vraiment la même chose. Alors je pourrais continuer. Quand Trump lorgne sur le Groenland, voire sur le Canada et le canal de Panama, quelle différence y a-t-il avec un Poutine qui lorgne sur l'Ukraine? On pourrait aussi mettre en avant la personnalisation du pouvoir. C'est un homme qui ne partage pas, ni l'un ni l'autre ne partage, de se concerte avec quelques contre-pouvoirs ou même quelques conseillers. On pourrait aussi ajouter que c'est le retour, en quelque sorte, à une puissance blessée. Et on retrouve chez l'un et chez l'autre une communauté d'aspiration par rapport à cette puissance dont ils ont la nostalgie et qui a été toujours battue. La puissance soviétique a été battue en Afghanistan, la puissance russe a été battue en Ukraine, puisque malgré tout, ces gens ne sont pas arrivés à Kiev. Et la puissance américaine, elle, a été battue au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, en Somalie. La liste est tellement longue que j'aurai pas le temps de finir avant la fin de l'émission.
Pierre Servent, vous êtes d'accord? Trump est obsédé par la restauration de la puissance perdue de l'Amérique, de la même façon que Poutine, qui n'a jamais digéré l'éclatement de l'URSS, rêve de restaurer aussi l'Empire perdu?
Oui, je pense que c'est vraiment une clé tout à fait importante de compréhension de la communauté de pensée, de projection des deux personnages, avec un élément que j'ajoute à ce que Bertrand Badi a dit très justement, à savoir que je crois que ces deux hommes sont réellement convaincus. Alors, ils l'ont dit, mais parfois les responsables politiques disent des choses qu'ils ne pensent pas, mais je crois qu'ils le pensent tous les deux, à savoir que le doigt de Dieu est sur eux. Vladimir Poutine considère, et le patriarche Kirill l'entretient dans cette idée, que ce qu'il fait, ce qu'il réalise, c'est la volonté de Dieu pour la Russie, pour une Russie qui n'a pas de frontières. Hein, ça, c'est un point très important. La Russie n'a pas de frontières. Là où un cœur russe bat, là où l'histoire russe a battu, eh bien, tout ça appartient à la Russie. Et du côté de Trump, il a très clairement dit que Dieu lui avait sauvé la vie pour qu'il puisse rendre aux États-Unis sa grandeur. Et je crois qu'ils le pensent réellement tous les deux. Et ça introduit un biais extrêmement dangereux. Hein. C'est une forme de kidnapping de Dieu à des fins politiques. C'est un vieux travers historique qu'on retrouve chez un très grand nombre d'empereurs, de prédateurs, etc. Et la difficulté, c'est que par rapport à ce type de croyance, la diplomatie piétine, parce que la diplomatie a besoin d'éléments tangibles, concrets, et de mettre sur la table des connaissances plutôt que des croyances. Et donc, je crois que ces deux personnages sont absolument convaincus d'être des sortes de nouveaux messies, des personnages prophétiques. Et voilà, le problème, c'est qu'avec des personnages prophétiques qui sont loin par le souffle de Dieu, eh bien, ils n'ont pas de limites.
Bertrand Badi.
Oui, je pense que Pierre a tellement raison que je voudrais rajouter deux rallonges, si vous voulez. La première, c'est que non seulement il y a effectivement cette mysticisation qui, cette fois-ci, ne se cristallise plus sur les valeurs, mais se cristallise sur la personne. Hein. C'est tout à fait intéressant, parce que le néoconservatisme était mystique, mais c'était un mysticisme des valeurs, c'est-à-dire apporter la démocratie au monde, etc. Tout cela a conduit, du côté Poutine comme du côté Trump, à une régression identitaire. C'est-à-dire que les valeurs identitaires, voire suprémacistes, sont à nouveau mises en évidence, alors que dans la mondialisation, elles étaient appelées, au contraire, à laisser la place à l'universalisme et aux catégories universalistes. Et pire encore que cela, c'est dans un cas comme dans l'autre, la valorisation du traditionnalisme, des traditions, le retour à la tradition, la manière dont la Russie, par exemple, dénigre la libération sexuelle en Occident, rejoint tout à fait les propos
de J.D. Vance.
Oui, de Vance, ou de Trump lui-même, sur le même sujet. Et ça, c'est très intéressant, ce retour hyper-traditionnaliste. Vous savez, quand l'hyper-traditionnaliste se marie à la force et au culte de l'ordre, ces trois éléments du triangle, on est très près du fascisme.
Christine Dugoin-Clément, Pierre Servent parlait à l'instant de la diplomatie qui piétine. Face à Poutine et Trump, la seule chose qui fonctionne, est-ce que c'est le langage de la force?
Je voudrais peut-être revenir sur un point précédent. Il y a aussi quelque chose que l'on retrouve chez aussi bien Poutine que Trump, c'est une forme d'opposition entre l'ordre d'un côté et le chaos de l'autre. Donc en gros, tous les pays tiers et qui s'opposent ne seraient que chaotiques et que ce soit dans leur structure sociale. Et là, on retrouvera tous les argumentaires traditionnels, anti-LGBTQ+, etc. Alors que eux peuvent amener l'ordre. Donc on va retrouver cela de manière très forte. Peut-être un point aussi, c'est que tous les discours que l'on peut voir en Russie de Kirill, etc., ne sont pas, alors, si vous voulez, donnent un encadrement à l'ensemble, mais ne sont pas forcément ceux qui vont piloter la population russe. Et au cas particulier, je ne suis pas sûre que le président Poutine soit aussi croyant que ce que l'on veut bien voir, mais peut-être un petit peu plus utilisateur de cette approche, ce qui n'est pas forcément le cas côté Donald Trump. Et ça va lui poser à terme une délicatesse, puisque quand vous voyez des personnes comme par exemple Rubio, extrêmement catholique, et puis un Elon Musk qui est sur le transhumanisme, donc qui est aux antipodes, il va falloir réussir à faire coordonner tout cela ensemble. Et ça pourrait être difficile sur la durée. Donc ça, c'était peut-être un point de rallonge à mon tour.
J'en reviens à ma question. Est-ce que la seule chose qui fonctionne face à des hommes comme Donald Trump ou Vladimir Poutine, c'est le langage de la force ?
Vladimir Poutine est dans une évaluation des puissances et des faiblesses de ce qu'il considère comme étant des adversaires. On le voit, à chaque fois qu'il y a eu un test, il y a eu une recomposition, une prise en compte, et on a poussé un tout petit peu plus loin l'avancée, voire la poussée militaire. On pourrait remonter avec les premières approches cyber en 2007, avec la Géorgie ensuite, avec la Crimée, le Donbass, et puis l'invasion massive de l'Ukraine en 2022. Donc on a réellement ce rapport de force, ce rapport de puissance et d'estimation du tiers. Sur la présence de Donald Trump, on va avoir une approche aussi qui sera très économique. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que l'on voit que parfois, entre les déclarations qu'il peut faire et puis les actions, on est légèrement en deçà, voire on peut opérer une forme de rétropédalage dans une certaine mesure si les marchés s'affolent, si on a d'autres entrants qui rentrent en ligne de compte. Un des objectifs et un des moteurs de Donald Trump, il est au niveau de sa politique interne. Quand on va avoir des déclarations comme par exemple le projet Stargate, c'est une déclaration de « regardez, j'arrive à tenir ma promesse de campagne ». Et on veut être le leader sur ce domaine-là. Quand on est sur les déclarations de paix, sur les éléments qui sont repris, eh bien, on est dans cette capacité d'arriver à gérer la paix. Et là, on voit bien que ça coince un peu. De 24 heures, on est passé à des délais beaucoup plus longs. On n'arrive pas à avoir un accord qui soit aussi clair que ça avec la Russie, qui continue de pousser régulièrement ses avantages et qui, pour cela, peut compter sur un Donald Trump qui n'a probablement pas la maturité ou en tout cas la clairvoyance ou les objectifs géopolitiques aussi affinés que ceux que l'on pourra avoir au Kremlin.
Pierre Servent, il nous reste 2 minutes avant la pause. Dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump, il faut riposter, ne pas tergiverser, taxer les produits américains exactement de la même façon que les États-Unis taxent les produits européens, œil pour œil, dent pour dent.
Exactement. Je pense que vous parliez tout à l'heure d'un langage de force. Il ne faut pas se contenter d'un langage de force. Il faut mettre sur la table des mesures, des exigences. Donc il faut effectivement contrer de la même façon l'agressivité américaine. Et puis surtout, je terminerai par là, il faut nouer des partenariats, et on voit bien que c'est en train de se construire, avec des pays qui, eux aussi, sont agressés par les Américains, donc le Canada, le Mexique, le Danemark, bien sûr, qui fait partie de l'Union européenne, et le Groenland, qui a un statut particulier. Voilà, donc il faut être absolument ferme, il faut que les Européens retrouvent la capacité de tenir non seulement un langage rugueux, mais des mesures qui soient elles aussi rugueuses. Je dis souvent que l'Union européenne, c'est un îlot de vertus dans un monde de brutes. Il faut que ces vertus deviennent aujourd'hui martiales.
Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, je vous vois faire la moue.
Je suis à 50% d'accord, mais il reste les 50 autres %. C'est-à-dire que si on répond à une fausse force par une fausse force, on n'avancera pas. Pourquoi je dis fausse force ? Parce qu'elle est en décalage par rapport à la réalité systémique du monde, à la mondialisation, à l'interdépendance. C'est-à-dire, effectivement, si on augmente nos tarifs et qu'eux augmentent leurs tarifs, on va vers une inflation généralisée, tout le monde perd. Et ce qui me frappe, Ce qui me frappe et qui m'indigne, c'est qu'il s'agisse de Israël-Palestine ou de Russie-Ukraine, on parle beaucoup de guerre, de non-guerre, de cessez-le-feu, de reprise de la guerre, mais on n'a pas la moindre idée de ce que la paix pourrait vouloir dire. Or, il y a quand même une place pour l'idée de paix qui n'est reprise par absolument personne.
On va y revenir dans la seconde partie de Géopolitique. Bertrand Badi, Christine Dugoin-Clément, Pierre Servant, on va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI et on se retrouve dans 10 minutes pour la suite de Géopolitique.
Géopolitique,
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Quelle stratégie pour les Européens face à la loi du plus fort, loi qui régit le monde selon Trump, mais aussi selon Poutine ou Netanyahou? Nous continuons d'en débattre avec Christine Dugoin-Clément, Bertrand Badi et Pierre Servant. Bertrand Badi, Emmanuel Macron avait préconisé dès 2017 la construction d'une Europe de la défense, sans succès. Il a fallu attendre le rapprochement américain avec la Russie pour que les choses bougent. On vit vraiment la fin d'une époque, la fin d'un monde, la fin des alliances traditionnelles?
Mais en fait, la fin de ce monde, elle remonte pour le mieux à 1989. Au 2 décembre 1989, lorsque Mikhaïl Gorbatchev, président de l'URSS, qui en avait pu que pour quelques mois, dit à George H. Bush, le président des États-Unis, que l'URSS n'est plus intéressée à la compétition avec l'Occident, qu'on sortait donc de la logique des blocs, et que le modèle d'alliance tel qu'il a été conçu en 1900, entre 1947 et 1949, si vous voulez, était périmé. Et on n'a pas voulu le voir. De même qu'on n'a pas voulu entendre les présidents qui se sont succédés à la Maison-Blanche, notamment Barack Obama et Joe Biden, qui disaient « mais il faudrait peut-être que vous revoyiez votre participation à l'effort de défense européen » parce que la notion même de défense n'avait plus le même sens. Donc je suis assez étonné qu'on commence 30 ans, 35 ans après la fin de la bipolarité à se demander si les modèles de défense conformes à la bipolarité peuvent encore fonctionner. Moi, personnellement, il y a longtemps que j'ai plaidé pour une révision générale et l'appel commencera par cela. C'est-à-dire, rappelez-vous le président Bush, George H. Bush, qui disait, sortant de la rencontre avec Gorbatchev, « Nous avons besoin d'un nouvel ordre international, New World Order. On n'a jamais rien voulu venir. » Eh bien, ça a fabriqué Poutine, ça a fabriqué le ressentiment, le désir de retour de puissance, parce qu'on n'a défini aucun moyen d'intégration de la Russie dans le nouveau système européen. Donc, c'est urgent de le faire. Alors maintenant, l'Europe de la défense, moi, je suis bien sûr tout à fait pour, c'est évident. Mais n'oubliez pas que la défense, c'est un instrument, c'est pas une fin. Et c'est l'instrument de quoi ? D'une politique étrangère. Et donc, il n'y aura pas d'Europe de la défense tant qu'il n'y aura pas une politique étrangère européenne commune. On en est extrêmement loin. Du coup, on parle beaucoup, on se contredit beaucoup. Hein. La cacophonie systémique à laquelle on assiste à l'intérieur de l'Europe, elle est plus ou moins cachée, mais elle est réelle. Tout simplement parce que on est d'accord ni sur la nouvelle configuration politique de l'Europe post-bipolaire, ni sur une politique étrangère unique.
Alors on va s'arrêter sur ce nouveau concept de force de défense européenne sur lequel les Européens viennent de se mettre d'accord. Pierre Servant, que recouvre ce concept que, je le disais, le président Macron prônait déjà en 2017?
Alors, si vous me le permettez, je voudrais quand même avoir une réaction par rapport aux propos de Bertrand Badi, parce que
allez-y.
Là, pour le coup, j'ai aussi des éléments de désaccord. Je ne veux pas trop le développer, mais je crois au contraire que l'Europe, les Américains, ont fait énormément pour la Russie poutinienne. On a beaucoup aidé la Russie, notamment après la crise économique et financière des années 2007-2008. On les a intégrés dans toute une série de cénacles, y compris l'OTAN, dans le sens où ils n'ont pas intégré l'OTAN, mais ils étaient persona grata et intégré dans des exercices, etc. Ils en ont profité pour faire massivement de l'espionnage. Donc je ne partage pas du tout ce sentiment. Je pense que beaucoup de choses ont été faites pour les Russes. Et je crois que Vladimir Poutine, avec un certain nombre de ses conseillers, avait véritablement une vision prédatrice. Et ça revient à un propos que Bertrand Badie a tenu auparavant, qui tourne autour du mot fascisme, qui est à utiliser, à mon sens, au sens des sciences politiques. Et je crois qu'il y a un fascisme éternel, comme disait Umberto Eco, qui avait défini le fascisme éternel en 14 points. Et vous avez un retour de vision, de construction du monde, qui sont d'essence fascisme. Ça a été décrit tout à l'heure, je ne vais pas le développer. Et que ça, c'est intrinsèque à ce qui s'est passé en Russie. Et là, malheureusement, nous l'avons également présent aux États-Unis. Alors, ce qui change quand même, alors Bertrand Badie a raison de dire que, comment dirais-je, un tournant en matière de relations internationales, d'alliances géopolitiques existait déjà à la fin du siècle dernier. Mais là, ce qui est absolument surprenant, c'est la trahison américaine. C'est véritablement de voir que l'Amérique de Donald Trump passe par-dessus la tête des Européens pour aller embrasser sur la bouche Vladimir Poutine. Donc là, c'est une claque magistrale. Alors certainement, les Européens auraient dû se réveiller plus tôt. Et pour en venir à votre question, le point est que les Européens sont obligés de reconstruire toute une série d'outils de cohérence, de cohésion, de partage de souveraineté sur les questions de défense, de co-construction d'un outil militaire. Dans l'urgence, des choses ont été faites dans le passé. L'Union européenne a conduit des opérations militaires. Mais là, véritablement, il faut dégager, je terminerai par là, un pool de têtes de pays vraiment très allant sur ces questions. Et d'ailleurs, ça inquiète assez Vladimir Poutine, on le voit à travers un certain nombre de déclarations. Ce pool de têtes comprend un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, qui est le Royaume-Uni, et puis trois autres pays majeurs à mon sens, la France, la Pologne et l'Allemagne, et puis d'autres pays européens peuvent s'agréger à ce pool de têtes qui doivent tirer, entraîner la défense européenne avec d'énormes efforts à faire, notamment sur l'industrie de défense européenne, pour arrêter d'avoir 21 types d'hélicoptères différents alors qu'ils ont la même fonction, 13 types de chars qui ont exactement la même fonction. Le problème, c'est qu'en matière d'armement, qu'est-ce qui permet de nourrir une vision stratégique, et de ce point de vue-là, c'est vrai que la vision stratégique, elle est un peu compliquée parce que les Européens sont partagés, mais en tout cas, l'unification sur le plan des outils militaires, ça demande 3, 5, 10 ans. Donc y a une gestion du temps qui est assez compliquée et que Poutine intègre en estimant que lui aussi a besoin de reconstruire son outil militaire de haute intensité qu'il n'a pas. Parce que comme l'a dit Bertrand Badie, et je termine vraiment là-dessus, la guerre en Ukraine, c'est un échec très important pour la Russie, à la fois stratégique et tactique, même si la Russie grignote du terrain.
Bertrand Badie, vous vouliez rebondir sur la première partie des propos de Pierre Servent.
Oui, trois petits points pour alimenter des échanges amicaux. Moi, je suis d'accord avec Pierre lorsqu'il dit effectivement qu'on exagère en parlant et en pleurnichant sur une Russie humiliée. Bien entendu, la chose est beaucoup plus complexe que ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que dès 2000, même dès 1999, Poutine a construit sa marque sur l'idée de restaurer la puissance russe, c'est-à-dire sur cette fibre du ressentiment. Et le ressentiment, il vient de quoi ? Pas forcément, et là je suis d'accord, d'une mauvaise de provocation européenne ou de manquement des Occidentaux à l'ordre de la courtoisie diplomatique avec la Russie. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Le mal est beaucoup plus profond. Ça vient du fait que l'on a cru en 89-91 qu'on pouvait continuer côté occidental comme avant. Et même plus qu'avant, c'est-à-dire en élargissant l'OTAN. Et c'est ce défaut de reconfiguration de ce New World Order que George H. Bush réclamait qui est à l'origine de toute la dissonance que nous vivons maintenant. Deuxième petit point, j'emploierai pas, ça va vous étonner, tellement le terme de trahison américaine. Je pense que tout simplement, Trump va au bout de sa logique. Et sa logique, c'est de dire, l'alliance, ça coûte plus que ça rapporte. C'est une entrave. Et on est dans cette logique de l'entrave. Et que la guerre peut, je dis bien peut, coûter plus cher qu'elle ne rapporte. Il ne tient pas ce discours sur Gaza. Là, ouvrir les portes de l'enfer ne le dérange pas. Donc c'est sélectif. Et derrière l'adjectif de sélectif, on trouve l'expression même de l'opportunisme trumpien. C'est-à-dire, lorsque une opération rapporte, je la prends. Quand elle ne rapporte pas, je ne la prends pas. Ce n'est pas de la trahison, c'est de l'égocentrisme reconstitué. Le troisième point, alors ça renvoie à cette question du projet de réarmement européen. Oui, moi je suis d'accord avec tout ce que Pierre a dit. Simplement, il serait quand même peut-être nécessaire, avant de se mettre au travail, de définir précisément la nature de la menace dont on parle. Est-ce que l'armement, le réarmement de l'Europe, c'est pour contenir un risque d'invasion ? Est-ce que c'est pour intervenir au sol en Ukraine ? Est-ce que c'est pour lutter contre le risque énorme de cyberattaque ? Est-ce que c'est pour concevoir un nouveau type de dissuasion ? On ne nous dit rien. C'est absolument incroyable. Vous êtes exactement dans la situation où on vous dit « ouvrez vos portefeuilles, sortez vos billets », mais on vous dit pas pourquoi faire, et d'ailleurs on ne sait pas trop pourquoi ça sera fait.
Christine Dugoin-Clément, est-ce que la Russie représente vraiment une menace existentielle pour les pays de l'Union européenne, comme l'affirment notamment les dirigeants français ?
En fait, ce que l'on voit, c'est que la Russie va déployer un spectre extrêmement large d'outils pour être en dispute ou en conflictualité avec de nombreux États occidentaux, au titre desquels la France, mais pas que. Et pour cela, on va voir l'usage d'actions informationnelles, d'énormément d'actions qui vont être sous le seuil de déclenchement de la violence légale, c'est-à-dire de la guerre. On pourrait parler des ingérences dans les processus électoraux qui ont pu être constatées dans différents pays européens, des différentes attaques informationnelles. Pour mémoire, le réseau Portal Combat qui a pour objectif de grossir des informations mensongères, de la désinformation et de la propagande qui volent l'identité graphique de médias qui bénéficient de la confiance de leur auditoire, eh bien vient encore d'être augmenté suite aux échanges du bureau Oval que vous évoquiez en début d'émission. On pourrait aussi parler de tout ce qui touche aux atteintes sur les câbles sous-marins, où comme on est un petit peu dans le flou, on va être en deçà d'une répression officielle. On a aussi le volet des cyberattaques qui a été évoqué rapidement par Bertrand Badi préalablement, où là aussi on a un ciblage qui est très fort, on a une démultiplication des attaques aussi bien sur les structures publiques que privées. Donc on est dans ce cadre-là. Par ailleurs, les mots qui ont pu être employés, que ce soit par le président Poutine ou par le premier cercle, font assez peu place au doute dans le fait que nous sommes considérés comme étant un ennemi, alors avec souvent une perception, en tout cas un discours qui inverse les éléments, et on va retrouver toute la dialectique de la forteresse assiégée, du fait que les Occidentaux voudraient détruire ce qu'est la Russie, aussi bien dans son essence que dans sa réalité. Donc on est quand même sur quelque chose de très très clair, et si on met en perspective ce que j'évoquais préalablement, à savoir le test que l'on fera de la capacité de réponse de ceux qui sont considérés comme des adversaires avec lesquels on marche peu ou prou sur la ligne rouge, la réévaluation pour pousser un tout petit peu plus loin, eh bien il y a de quoi à s'inquiéter, en sachant que quelque part une option qui serait un cessez-le-feu, et j'en finirai là-dessus, sans garantie de sécurité et sans être une paix réelle, eh bien serait tout à l'avantage de la Russie, qui pourrait ne pas changer ses objectifs militaires par rapport à sa population, n'aurait pas à passer le contrôle des territoires occupés sous une administration civile et non plus militaire, donc avec un contrôle très fort, n'a pas à récupérer ni à replier les troupes sur le terrain. On n'a pas le poids social d'hommes qui sont potentiellement porteur de syndrome de choc post-traumatique sur le territoire russe, vous laissez une présence militaire et vous continuez à monter en puissance votre complexe militaro-industriel et à le faire produire. Donc on serait dans quelque part quelque chose de tout à fait avantageux.
Et en même temps, Pierre Servent, le Kremlin a dénoncé cette semaine la militarisation de l'Europe. Donc ça, ça inquiète vraiment Moscou.
Oui, alors il y a un double, comment dirais-je, un double angle dans ce type de propos, c'est-à-dire que à la fois plus la Russie se militarise, plus elle dénonce les autres. Vous avez une inversion de discours de type soviétique chez les Russes depuis le début qui est assez fascinant. C'est-à-dire chaque fois qu'ils utilisent le mot guerre, ça veut dire paix. Quand ils parlent de paix, ça veut dire guerre. Donc là, il y a cet élément-là. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la réunion, par exemple, qui s'est déroulée il y a quelques jours autour du président français avec une trentaine de chefs d'état-major dans une configuration que je n'avais, le professeur Badi me corrigera si je me trompe, mais je n'avais jamais vu de configuration de ce type-là. Alors, ce n'était pas une réunion décisionnelle, car bien évidemment, les chefs d'état-major de 30 pays n'avaient aucune, n'étaient pas soumis à l'autorité du président français, même si c'est le président Macron qui présidait cette rencontre. Mais j'ai trouvé que c'était assez spectaculaire, et c'est un message fort qui est envoyé à la Russie, qui est nous ne lâcherons pas l'Ukraine et nous n'avons pas l'intention de vous laisser poursuivre votre politique de prédation. Alors, je suis bien d'accord que les symboles ne suffisent pas, mais ce type de symbole est quand même perçu. Et l'idée qui a été projetée avec beaucoup de prudence de la présence de forces françaises et britanniques sur le territoire ukrainien en cas de paix, hein, c'est pour l'instant les deux capitales, Londres et Paris, disent en cas de paix, ce qui fait qu'on est très très loin.
Sur la base du volontariat.
Voilà, alors c'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait comme groupe leader les Français et les Britanniques et d'autres pays qui viendraient s'agréger. Ça, c'est extrêmement préoccupant pour Poutine, même si je pense que la faisabilité n'est pas pour demain, parce que ce sont deux puissances nucléaires et que si vous avez des troupes de deux puissances nucléaires en Ukraine, ça bloque un des éléments importants de Poutine depuis 3 ans, à savoir le fait de conduire une guerre conventionnelle sous couverture nucléaire, en passant son temps à menacer de l'arme nucléaire. Là, s'il y avait des forces françaises et britanniques, cet argument tomberait, et donc il ne veut absolument pas de cela, il l'a dit et répété. Et juste pour terminer, je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit, les Russes sont tout à fait transparents. Les Russes disent « nous n'avons pas changé d'objectif, et l'objectif c'est Kiev ». C'est Kiev, c'est à court terme le fait qu'il y ait une reconnaissance de l'annexion des 5 provinces ukrainiennes que nous avons intégrées dans la constitution de la Fédération de Russie. L'objectif, ça continue d'être Kiev. Et demain, ça sera également, ou en même temps, la Moldavie, la Géorgie. Donc le projet impérial, il est très clair. Et en plus des attaques indirectes, hybrides, comme on dit, qui est un terme qui n'est pas génial, mais pour indiquer effectivement des opérations en dessous du seuil vraiment de conflictualité, des opérations en direction des Pays-Baltes, voire de la Pologne, des opérations de déstabilisation, pas l'envoi nécessairement de divisions blindées, ça reste dans les objectifs et le désengagement américain offre des opportunités. Hein.
Bertrand Badi.
Oui, je suis d'accord sur tout ça et c'est vrai qu'on est dans un contexte de démonstration de force. Seulement, on a oublié un petit détail qui est passé sous les radars, personne n'en parle, mais qui était l'épreuve de vérité. 24 février 2025, réunion du Conseil de sécurité, une résolution américano-russe qui fait totalement l'impasse sur le droit du peuple ukrainien à s'autodéterminer et sur le principe d'intégrité territoriale. Les deux pays européens détenteurs d'un droit de veto se sont bien gardés de s'y opposer. Ce jour-là, l'Europe a montré qu'en vrai, elle ne s'opposait pas à la connivence américano-russe sur l'Ukraine. Et on pourrait dire la même chose sur le conflit israélo-palestinien.
Alors, on y vient justement. Au Proche-Orient, Donald Trump a donné carte blanche au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pour, je cite, « finir le travail à Gaza ». Et c'est peut-être ce qui est en train de se préparer, puisque cette semaine, Israël a rompu le cessez-le-feu et les négociations en cours pour récupérer ses otages aux mains du Hamas et a relancé la guerre dans la bande de Gaza, coup de bombardement massif et meurtrier. Netanyahou qui limoge le chef du Shin Bet, une première dans l'histoire de l'État hébreu. Netanyahou accusé par les familles d'otages d'agir uniquement pour préserver ses intérêts. Netanyahou accusé par un ancien ministre de son parti, le Likoud, d'être une menace pour la démocratie. Le monde assiste impuissant au naufrage des Palestiniens, au naufrage de Gaza. Comment sortir de cette impuissance, Bertrand Badi?
Mais le monde n'est pas impuissant. Si on opposait à Israël le tiers, le quart des sanctions qu'on a opposées à la Russie, c'est-à-dire si on traitait un agresseur comme un autre agresseur, eh bien, il y aurait longtemps que Israël aurait dû abandonner la partie. Donc c'est une impuissance stratégique, c'est une impuissance voulue, c'est un droit de tuer qui a été donné à Netanyahou. Et l'indifférence incroyable devant ces dizaines de milliers de morts en Palestine, à Gaza en particulier, et de plus en plus en Cisjordanie, c'est l'expression d'un choix politique profond, non seulement des Occidentaux, parce que c'est toujours facile de tirer sur les Occidentaux, mais M. Poutine, c'est pareil, je ne l'ai jamais entendu réclamer des sanctions contre Israël. Donc il y a là quelque chose d'éminemment préoccupant pour reprendre la thématique de tout cet échange. La vraie paix, c'est dire le vrai. Et ce qui me frappe, c'est qu'en Ukraine comme en Palestine, on ne dit pas le vrai. Personne n'a le courage de la vérité, c'est-à-dire du droit des Ukrainiens et du droit des Palestiniens. Quand au Conseil de sécurité, les Européens refusent de proclamer le droit des Ukrainiens, ils n'ont qu'à se taire pour le reste. Et quand on refuse de considérer qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une solution à deux États au Proche-Orient, eh bien, effectivement, on n'est pas dans une logique de peur, on est dans une logique de guerre.
Merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges qu'on aurait pu encore continuer, évidemment. Mais le temps qui nous est imparti est terminé. Christine Dugoin-Clément, je renvoie nos auditeurs à votre livre « Géopolitique de l'ingérence russe, la stratégie du chaos chez PUF ». Pierre Servant, vous avez publié « Le monde de demain, comprendre les conséquences planétaire de l'onde de choc ukrainienne chez Robert Laffont. Et Bertrand Badie, votre dernier ouvrage s'appelle L'art de la paix. Il est paru en 2024 chez Flammarion. Merci à David Brocouet qui a réalisé cette émission et à Cécile Lavolo qui l'a coordonnée. À demain et portez-vous.